La belle histoire de Sainte-Catherine Labouret a commencé le 2 mai 1806. Elle fut l'enfant d'une grande famille, 17 enfants, dont 8 seulement survécurent. Elle fut dans une famille de paysans qui avait 1121 pigeons, des vaches, des chevaux, et qui vivait donc de ces animaux et des produits de la ferme. Dès le lendemain de sa naissance, car ses parents étaient très chrétiens, Catherine fut baptisée. Puis sa maman lui donna une bonne éducation. Elle lui apprit à aimer Dieu, la Sainte Vierge, son prochain. Elle lui apprit aussi à travailler, à respecter son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Elle lui apprit aussi à lire, car à l'époque, il n'y avait pas assez d'argent pour amener les enfants à l'école. Et puis plus tard, Catherine apprit à travailler. Le travail était nombreux, la famille était très nombreuse aussi. Il fallait travailler pour vivre, pour survivre. C'est à cette époque, Catherine avait 8 ans, qu'elle est une grande croix. Sa maman, qui n'avait pas encore 50 ans, mourut. Alors Catherine, ne désespérant pas, monta sur la chaise de la cuisine, embrassa la statue de la Sainte Vierge et lui dit « Oh Marie, je n'ai plus de maman sur la terre. Soyez ma maman du ciel toujours auprès de moi. Défendez-moi, protégez-moi et faites qu'un jour je puisse vous voir avec Jésus dans le ciel. » La Sainte Vierge lui donna ce courage. Mais le père de Catherine, qui ne pouvait plus tout faire à la maison, confia les plus petites à une de ses sœurs, à quelques kilomètres plus loin. Malheureusement, cette sœur avait beaucoup de travail et peu de temps pour s'occuper de ses nièces. Mais Catherine faisait tout en présence de Dieu. Elle travaillait pour Dieu, elle priait pour faire plaisir à Dieu, elle aidait son prochain parce qu'il a l'image de Dieu, elle montrait le bon exemple pour amener les âmes vers Dieu, tout pour Dieu. Et le travail ne manquait pas. Mais quand on le fait par amour pour Dieu, par amour pour Jésus, on le fait même avec joie. Et même si la souffrance, la fatigue est là, eh bien, parce qu'on aime, eh bien, cette souffrance, on l'aime aussi. La force, le courage, la patience, la bonne humeur que Catherine avait tous les jours, elle ne la trouvait pas en elle, mais tout ça, elle le puisait en Dieu. Tous les matins, se levant à 5 heures, elle faisait 3 km à pied, par tous les temps, pour aller chercher le Dieu fort, le Dieu caché, qui transforme notre âme. Jésus venant en nous, nous ne sommes plus seuls, c'est Jésus qui vit en nous, qui travaille avec nous, qui souffre avec nous, qui sanctifie nos âmes et qui nous donne le courage de lui ressembler dans les épreuves de la vie. Balayage, visite des malades, cuisine, poulailler, toutes choses, Catherine le faisait avec Jésus en elle et par amour pour lui. Voilà pourquoi elle a le courage de faire beaucoup de choses et beaucoup de travaux. Midi, c'est l'heure de l'Angélus. Après cette prière qui nous rappelle la venue de Dieu sur la terre, prière de reconnaissance, elle s'en va au champ pour apporter le pique-nique à tous ces travailleurs qui travaillent sous le soleil. Le pain que nous mangeons, pensons que c'est le pain de gens qui ont beaucoup peiné. Elle retourne à son travail, à sa vaisselle, à sa lessive. Le seul moment de détente que Catherine a, c'est 4 heures de l'après-midi. Cette détente, elle la passe dans l'église, à prier, à remercier, à demander pardon, à supplier pour elle, pour toute sa famille, pour tous ceux qui vivent sans Dieu. Beaucoup de gens, voyant Catherine, étaient émerveillés de ses vertus. Le jeune homme voulait la marier, mais Catherine refusait. Un jour, elle rentre de la messe et dit à sa petite sœur, « Ce matin, je prends pas de déjeuner. » « Comment ça ?»« Non, j'ai décidé de jeûner. »«
Déjeuner ? Si tu manges pas, tu prends pas travailler, tu vas tomber malade. »«
Non, j'ai 15 ans, Dieu vient en moi tous les matins, il me donnera la force. »
La grâce de Dieu agissait déjà d'une façon extraordinaire dans cette âme. Et Catherine tint le coup. Deux fois par semaine, le vendredi et le samedi, elle ne mangeait pas ni le matin ni le soir. Quel amour pour Dieu! Combien nous faisons peu à côté des saints!
Et voilà qu'un jour, elle vient dire à son père, « Écoute papa, moi j'ai bientôt 20 ans, j'aimerais entrer au couvent. »
Pas question.
Nous n'avons plus de maman, nous avons besoin de toi, il faut que tu travailles pour faire tourner la ferme.
Bien, papa, j'obéirai. Et, acceptant ce sacrifice, elle retourne à son travail.
Le papa, lui, se demandait un peu à qui il allait pouvoir marier sa fille. Et il recevait souvent des gens pour en discuter. Et Catherine tenait bon. Elle disait souvent à sa petite sœur, « Ce que je veux, c'est la volonté de Dieu. Jamais je n'ai changé d'avis. Dieu m'appelle à être religieuse. Je veux lui obéir. » Et voilà que Dieu va lui donner un signe. C'était une nuit. Catherine fit un songe. Elle vit un prêtre, à la fin de la messe, qui se retournait vers elle avec un regard suppliant. Elle ne comprenait pas, elle eut peur, elle partit en courant. Elle s'arrête chez un malade, toujours dans le rêve. Et voilà que c'est chez ce malade, le même prêtre est là, qui lui dit, « Ma fille, c'est très bien de soigner les malades. Aujourd'hui, tu me fuis, mais un jour, tu viendras chez moi. Dieu a des plans sur toi, ne l'oublie pas. » Et Catherine se réveille, sans trop comprendre ce que Dieu veut lui dire. Elle redemande à son père pour entrer au couvent. Niet, toujours non. Elle continue son travail, humblement, comme la Sainte Vierge à Nazareth, en silence, pour faire plaisir à Dieu. Mais son père, qui en avait un peu marre de toutes ces histoires de vocation, de couvent, de religieuse, écrit à un de ses frères à Paris, qui tenait à ce qu'on appelle un bistrot, pour lui dire, écoute, il faut que tu prennes Catherine chez toi, elle va travailler dans ton café, avec tout le travail et tous les gens qui sont là, elle aura vite fait d'oublier ses idées de vocation. Et voilà qu'elle part à Paris, la mort dans l'âme, car il fallait laisser ses chères petites sœurs, son cher petit pays. Mais avec courage, dans la caravane qui l'amène à Paris, Catherine prie la Sainte Vierge, pensant que ce que les parents demandent, c'est Dieu qui le demande. Si mon papa me demandait cela, Dieu me donnera le courage, puisque c'est Dieu qui commande à travers mes parents. Dans ce café de Paris, le travail est rude. Tôt levé, très tard couché, souvent Catherine se couche habillée sur son lit. Mais le matin, elle reprend courage en se mettant à genoux, comme doit faire tout chrétien. Et au pied du crucifix, elle pense que sa croix est bien petite à côté de celle de Jésus. Et Jésus lui redonne courage. Chaque jour suffisant sa peine, elle tient bon. Mais son oncle a pitié. Il voit bien que cette fille pieuse, qui a de bonnes manières, n'est pas faite pour vivre dans ce bistrot, dans cette grande ville. Et, parlant de cela à un de ses autres frères, ils écrivent à une religieuse, Hubert Labouré, qui était religieuse chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul, les sœurs de la Charité, ces fameuses sœurs à grande cornette. Et voilà qu'elle accepte de prendre Catherine. Elle a une sorte d'orphelinat où on s'occupe de jeunes filles. Mais quand Catherine arrive là, oh surprise, oh déception, elle se rend compte que ces filles sont là, non pas pour apprendre la vie religieuse, mais les bonnes manières, ma chère. Comment tenir une tasse de thé, comment faire la révérence, comment saluer, comment tenir un éventail ou un épouvantail, cela dépend.
comment danser. Vraiment, c'est pas ça que Catherine était venue chercher à Paris. Mais elle perd pas courage. Elle trouve des amis, elle prie. Et voilà qu'un jour, elle tombe nez à nez avec un portrait du prêtre qu'elle a vu en songe. Époustouflée, elle demande à une sœur, « Qui est ce prêtre ?»« Comment ça ?»« Mais c'est Saint-Vincent de Paul. » »« Saint-Vincent de Paul ? » ?»« Mais oui, le fondateur des Sœurs de la Charité. » »« Et où habite-t-il ?»« Mais il habite nulle part, il est mort. »« Il est saint. » »« Il y a longtemps qu'il est mort. » Alors j'ai compris. Elle comprit que Dieu l'appelait dans la congrégation de Saint-Vincent de Paul. Elle se mit à suivre ses sœurs pour voir un peu leur travail, leur visite des malades, surtout leur sourire dans la charité qu'elle donnait, et conquise, elle demanda d'entrer dans ce couvent. Elle écrit à son père, et là son père, à la surprise générale, dit « Oui, oui, qu'elle fasse ce qu'elle veut, c'est la volonté de Dieu. » La grâce, là aussi, avait fait son travail. Et c'est donc en 1830, le 22 janvier, que Catherine entrait chez les Sœurs de la Charité. Alors vraiment, Catherine est heureuse. Elle travaille, elle prie, elle étudie, elle lit, elle regarde surtout les autres sœurs pour voir quel exemple suivre. Mais ce sont plutôt les sœurs qui regardent Catherine, car sa piété, sa fidélité au règlement, son silence, son recueillement, elle doit penser à Dieu bien souvent, édifie les sœurs, même les plus âgées. Comme quoi l'exemple qu'on peut donner fait toujours du bien. Le bon exemple, bien sûr. Mais voilà qu'elle doit partir à la rue du Bac, 140 rue du Bac, numéro de rue qui va devenir très célèbre. Dans ce couvent, c'est un peu le séminaire des sœurs. On y forme les jeunes sœurs à devenir religieuses. Et là encore, ayant revêtu l'habit religieux, elles s'appliquent à la prière. Et Dieu la récompense. Plusieurs fois, Dieu va la récompenser d'apparition. Jésus va lui parler. Saint Vincent de Paul, lui aussi, va lui apparaître, va lui montrer son cœur, va lui donner une mission de charité. Et cela encourage sœur Catherine. Mais elle ne parle de cela à personne, sauf à son confesseur. Elle ne veut pas se vanter des grâces que Dieu lui donne. Et voilà qu'un jour, le 26 novembre 1830, la supérieure leur a parlé longtemps de la Sainte Vierge et de l'amour qu'avait Saint Vincent de Paul pour la Sainte Vierge. En leur donnant une petite relique de Saint Vincent de Paul. Et voilà que sœur Catherine se couche en avalant cette relique et en demandant à Saint Vincent de Paul, « Saint Vincent de Paul, vous avez tant aimé la Sainte Vierge, moi aussi, faites que je la voie cette nuit. » Et elle allait être exaucée. Tout à coup, au milieu de la nuit, un petit enfant de 5 ans la réveille. « sur la bourrée, réveillez-vous. La Sainte Vierge vous attend à la chapelle. »« La Sainte Vierge ? Oui, suivez-moi. » Vite, elle s'habille, elle suit ce petit enfant qui était son ange gardien. Mais tout étonnée, elle remarque que les lampes sont allumées partout. Et à la chapelle, extraordinaire vision, tout était allumé, même les chandeliers, comme pour la messe de minuit. « Mettez-vous là à genoux, la Sainte Vierge va arriver. » Elle s'agenouille auprès de l'autel, à côté du ciel du célébrant, et voilà que la Sainte Vierge apparaît. Elle s'assied dans le fauteuil du célébrant et Catherine a l'extraordinaire privilège de se mettre à genoux à ses pieds et de mettre ses mains sur ses genoux, comme sur les genoux de sa maman. Et là, la Sainte Vierge lui parle comme une maman. Elle lui donne une mission, mission qu'elle devra donner à son confesseur. Mais à ce moment, la Sainte Vierge prend un air plus triste. Ma fille, les temps sont très mauvais. Des malheurs vont venir sur la France et l'Europe. Le roi sera renversé. Le monde entier sera renversé par des malheurs de toutes sortes. Et Catherine voyait la Sainte Vierge qui pleurait en disant cela. Mais la Sainte Vierge donne le remède. Venez, dit-elle, venez au pied de l'autel du Saint-Sacrifice. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont, les grands comme les petits. Et voilà pourquoi, depuis 1830 jusqu'à aujourd'hui, à la rue du Bac, dans l'église, au pied de l'autel, de quantités de gens ont reçu des grâces extraordinaires, de courage et de patience. Nous aussi, nous avons des chapelles, des églises avec un autel. C'est là que Jésus donne la patience, quand il renouvelle sa passion. Passion vient de patience. La Sainte Vierge dit aussi qu'elle protégera les deux communautés de Saint-Vincent-de-Paul, les Sœurs de la Charité et les Frères de la Mission. Il y aura des victimes dans d'autres communautés religieuses. L'archevêque de Paris même sera fusillé. La croix de mon fils et Jésus seront méprisés. On ouvrira de nouveau le cœur de Jésus. Les rues seront pleines de sang. Le monde entier sera dans la tristesse. Quand cela arrivera-t-il? Dit Catherine, tout épleurée. Dans 40 ans, ce sera en 1870. Mais la Sainte Vierge ne cessait d'encourager Catherine, en disant que ces épreuves ne devaient pas la décourager. Ces guerres seraient des punitions pour les péchés des hommes et des moyens aussi de ramener à Dieu certains pécheurs au cœur endurci. Mais que la prière serait toujours le réconfort, le fortifiant de tous ceux qui seraient pris dans ces moments de tourmente. Et la Sainte Vierge repartit vers le ciel. Sœur Catherine se fit accompagner son ange gardien jusque dans sa chambre et là dans son lit jusqu'au matin. Ce n'est pas surprenant, elle ne put pas dormir. Elle se rappelait les paroles de la Sainte Vierge, la mission qu'elle aura à remplir, qu'elle ne connaissait pas encore, et ses émeutes, ses combats qui allaient ravager une bonne partie de la chrétienté. Elle priait et priait pour que, si c'était possible, ce calice, ce fléau, soit éloigné, ou au moins diminué. Et il le fut en effet grâce aux prières de Sainte Catherine. Alors, à parler de ce jour-là, elle fit tout par Marie, pour Marie, en Marie, avec Marie. Pour son triomphe, avec ses vertus, dans son cœur et avec elle. Comme les croisés qui chaque matin offrent la journée par le cœur de Marie. Et voilà qu'elle lui apparaît une deuxième fois. Toujours en 1830, cette fois la Sainte Vierge apparaît entourée de 12 étoiles, tenant un globe terrestre dans les mains et écrasant un serpent. Ces 12 étoiles sont les 12 apôtres, dont Marie est la reine. Ce serpent, c'est le démon qu'elle écrase depuis la prédiction du paradis terrestre. Et ce globe, c'est la terre qu'elle offre à Dieu, qu'elle protège de ses mains maternelles. Puis la Sainte Vierge ouvrit les mains, et comme à Fatima plus tard, des rayons sortirent de ses mains qui pénétraient la terre. Catherine lui demanda, « Qu'est-ce que sont ces rayons ?»« Ce sont les symboles des grâces que je répands sur tous ceux qui me les demandent. » Ensuite, autour de la Sainte Vierge, lors de cette apparition, Catherine put lire, « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » C'est-à-dire,
Ô Marie qui n'avez jamais connu de péché, priez pour nous qui crions vers vous. Belle prière que vous récitez plusieurs fois par jour, certainement, surtout dans les tentations, car Marie nous protège si on la prie. Puis elle vit ces 12 étoiles qui entouraient les deux cœurs de Jésus et de Marie, transpercés d'un glaive, avec le M de Marie qui portait la croix de Jésus, comme pour dire, moi, Marie, je porterai la croix avec vous. Mon cœur a été percé, le cœur de Jésus est entouré d'épines, nous savons ce que c'est la souffrance, nous vous aiderons à porter la croix qui conduit au ciel. Et alors la Sainte Vierge lui demanda une demande capitale. Ce fut le grand message de la rue du Bac. Faites faire une médaille sur ce modèle que je viens de vous montrer. Tous ceux qui la porteront au cou recevront de grandes grâces. Les grâces seront même abondantes pour les personnes qui les porteront avec confiance. Et la vision disparut. Vous voyez que la confiance fait beaucoup. Alors Catherine s'empressa de réaliser les demandes de la Sainte Vierge. Elle avertit M. l'abbé Aladel, la Sainte Vierge veut qu'on fasse faire une médaille. Arrêtez vos histoires, j'y crois rien. Grande déception. Elle repart à son travail, à son repas, mais l'appétit n'était plus là. Elle désirait tant accomplir la demande à la Sainte Vierge qui voulait cette médaille, sachant que cette médaille répandrait de grandes grâces, sauverait beaucoup de gens, protégerait beaucoup de pécheurs. Elle priait, elle suppliait, elle demandait que son confesseur, que ses supérieurs la croient. Faites-nous un signe. Mais son confesseur n'y croyait toujours rien. Et Catherine fut à ce moment changée de maison. Elle alla dans un hospice de vieillards pour s'occuper des personnes âgées et travailler à la cuisine. Elle y travailla de tout son cœur, pensant que tout ce qu'elle faisait à ces bonnes vieilles personnes, c'était comme si elle le faisait à Jésus, puisque Jésus habite en nous par la grâce sanctifiante. Alors elle nettoyait les habits, elle raccommodait, elle aidait ceux qui étaient un peu handicapés, elle nettoyait les parquets, elle panossait, elle poussait. Tout cela, elle l'offrait pour qu'enfin, la médaille soit faite. Et ses sacrifices et prières furent entendus du ciel. Voilà comment cela se passa. Finalement, M. Aladel en trouva l'archevêque de Paris. Il lui dit, Monseigneur, il y a une sœur qui dit, j'ai vu la Sainte Vierge qui veut qu'on fasse une médaille pour protéger les chrétiens et convertir les pécheurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ben on va faire un essai. Si ça vient de Dieu, ça fera du bien. Si ça ne vient pas de Dieu, on arrêtera les frais. Et voilà que l'archevêque se rend chez un évêque apostat qui avait tout rejeté de la religion et qui allait mourir et qui avait mis à sa porte des gardes pour que personne ne vienne le convertir. L'archevêque arrive chez lui, mais les gardes lui disent poliment, « Personne ne doit rentrer ici. » Alors, Monseigneur Quellen, l'archevêque, donne une médaille et dit aux gardes, « Donnez ça à l'évêque, cet apostat, de ma part. » Et il repart. Quelques heures plus tard, il était rappelé au pied du lit de ce malade qui avait été instantanément converti par la médaille miraculeuse. Aussitôt, elle fut frappée à des milliers et des millions d'exemplaires. Même le pape Grégoire XVI l'a pris chez lui à Rome. Mais sœur Catherine, en entendant parler du succès de cette médaille, restait cachée, humblement. Elle l'avait fait pour la Sainte Vierge. Elle ne voulait pas se montrer, elle, pourvu que la Sainte Vierge soit aimée et obéie. Et tout humblement, on l'appela même la Sainte du silence, elle continua sa vie de couvent, prière, travail, sacrifice, charité, entraide. Elle aidait beaucoup les autres, en supportant les moqueries qu'on lui faisait.
On lui racontait les merveilles de la médaille, qu'on appela très rapidement non plus la médaille de Marie Immaculée, mais la médaille miraculeuse, tellement les miracles avaient été nombreux, elle fut répandue partout. On désirait tant voir la sœur qui avait vu la Sainte Vierge, mais Catherine ne voulut pas. Elle continuait à s'occuper de ses poules, à travailler, à supporter les reproches, souvent pas mérités, mais en pensant à Jésus flagellé, elle acceptait cela. Et la Sainte Vierge, dans la prière, lui demanda une chose nouvelle. « Allez trouver votre confesseur. Dites-lui que je veux aussi des enfants qui soient enfants de Marie, qui portent ma médaille, qui imitent mes vertus et qui me fassent prier et aimer autour d'eux. » Là, l'abbé Aladelle, convaincu par les miracles de la médaille, accepta aussitôt. Et il fonda ce qu'on appelle les enfants de Marie, qui portaient la médaille, imitaient les vertus de Notre-Dame et cherchaient par tous les moyens, en se faisant de petits messagers de l'Immaculée, à la faire connaître et aimer. Un peu comme vous, n'est-ce pas? Certains vieillards n'étaient pas commodes, certains même arrivaient à moitié sous. Mais Catherine, avec patience, s'occupait d'eux, et le lendemain matin, quand ils étaient un peu dégivrés, elle leur montrait l'idiotie de leur comportement, et par sa douceur, dans ses reproches, elle les convertissait. Les meilleurs fruits, c'était pour eux, pour les personnes âgées, pas pour elles. Bel exemple, non pas de gourmandise, mais de sacrifice. On fit même faire une statue de Marie tenant le globe, car les gens voulaient prier devant une image de Notre-Dame. Monsieur l'abbé Desgenettes, curé de Notre-Dame des Victoires, put voir combien la médaille est efficace. Son église était vide tous les dimanches, à peine 3 ou 4 personnes à la messe. Il consacre son église à Marie Immaculée, et le soir même, l'église est pleine, et depuis ce jour-là, elle ne désemplit plus. Notre-Dame des Victoires, là où Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a obtenu de grandes grâces. Un autre miracle, ce fut la conversion d'un juif, un dur à cuire qui s'appelait Ratisbonne. Un ami, missionnaire, lui donna une médaille miraculeuse. « Oh, je n'ai pas besoin de ça, vous savez, moi je suis juif. » Mais ça fait rien. La Sainte Vierge était juive, elle aussi. Elle a embrassé la religion du Nouveau Testament. Prenez-la pour me faire plaisir. Bon, si vous voulez. Et voilà qui met la médaille autour du cou. Le lendemain, les deux amis se rendent dans une église à Rome pour un enterrement. Et là, tout à coup, la Sainte Vierge apparaît à ce juif, toute resplendissante de lumière. Son ami revient. « Mais qu'est-ce que tu fais là par terre ?»« J'ai vu la Sainte Vierge. »« Quoi? Toi ?»« Oui, j'ai vu la Sainte Vierge. »« Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ?»« Rien. Mais j'ai tout compris. Je veux devenir chrétien. » Et il se fit instruire, baptiser. Il devint même prêtre et il fonda une congrégation, la congrégation de Notre-Dame de Sion, pour la conversion des Juifs. La médaille se répandit encore chez les militaires, chez le roi même, mais Catherine restait silencieuse. Sœur Catherine continuait sa vie humble et silencieuse, ne voulant pas se faire connaître elle, pourvu que la Sainte Vierge soit connue. Elle continua à s'occuper de ses vaches, de son travail. Elle continua à visiter les malades, à leur parler simplement, humblement, se réjouissant surtout d'assister les mourants, car ils étaient le plus proche de l'éternité. Et le démon qui fait souvent de nombreuses attaques au moment de la mort, mais pourtant, qui est pourtant repoussé par la Sainte Vierge, sœur Catherine se réjouissait de prier le chapelet à côté des malades, qui partaient paisiblement vers l'éternité. On parlait beaucoup de sœur Catherine, mais jamais elle n'avoua que c'était elle qui avait vu la Sainte Vierge. Elle fut bien heureuse quand elle apprit que la Sainte Vierge était apparue encore à Sainte Bernadette, là aussi pour rappeler qu'elle était l'Immaculée, la femme sans péché, qui pouvait nous aider beaucoup à combattre le péché. On l'admirait, et voilà qu'un jour, un jeune homme vient lui dire « Que je suis content de parler à la sœur qui a vu la Sainte Vierge !» Et elle, pour retourner le char, lui dit « Arrêtez de dire des choses pareilles !» Monsieur Aladel mourut, son confesseur, et sœur Catherine aussi sentait qu'elle vieillissait. Et voilà qu'à ce moment-là, en 1870, la guerre civile arriva. « Les temps sont très mauvais, avait dit la très sainte Vierge Marie. Des malheurs vont fondre sur la France et sur l'Europe. » Ce fut la guerre des Prussiens et la guerre civile à Paris en 1870. La Sainte Vierge dit à sœur Catherine, pendant qu'elle priait, « Ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de dangers, beaucoup de choses dangereuses qui vont passer par ici. Le danger sera bien grand à un certain moment, tout semblera perdu, mais je serai là, ne vous inquiétez pas. » Jour après jour, les soldats arrivaient au couvent, certains pour être soignés car ils étaient blessés, d'autres pour importuner les sœurs, mais toujours sœur Catherine réussit à repousser les méchants. « Ayez confiance, avait dit Notre-Dame, vous reconnaîtrez ma visite et la protection de Dieu sur vous. » Et voilà que les soldats aussi vinrent la trouver pour demander des médailles. Sœur Catherine fut même menée devant le tribunal de ces révolutionnaires, mais elle sut bien se défendre. Un jour même, les communards, comme on les appelait, voulaient profaner le Saint-Sacrement. Et les religieuses communièrent toutes les hosties qui étaient dans le ciboire. Et on les laissa tranquilles. Finalement, on dit, bon, de déménager pour éviter qu'il y ait des blessés. Les communards arrivèrent au couvent. Ils voulaient casser la statue de la Sainte Vierge. Ils voulaient la briser à coups de barre. Mais impossible. Impossible de la bouger ou de la casser. Notre-Dame restait ferme et elle protégea le couvent jusqu'à la fin de cette guerre civile. Jusqu'à la victoire finale. C'était le 21 mai. Mois de Marie. À partir de ce moment, d'autres religieuses novices revinrent au couvent, bien heureuses de pouvoir embrasser leur vocation. Le moment du grand départ vers l'éternité approchait. Alors, sœur Catherine appela sa supérieure et lui dit « C'est la dernière année de ma vie, il faut que je vous parle. C'est moi qui ai vu la très sainte Vierge Marie. » « Comment, c'est vous? Vous avec qui j'étais si dur, si peu charitable parfois? Je vous demande pardon. » « Mais il n'y a pas de quoi. J'étais bien contente d'être humiliée, d'imiter ainsi la Sainte Vierge. » Et elle raconte toute l'histoire des apparitions, des demandes de la Sainte Vierge. La supérieure était époustouflée. « Comment cette simple sœur, humble, silencieuse, avait gardé le secret, était restée effacée pour faire connaître la Sainte Vierge seule. » On mit par écrit tous ces témoignages, et voilà que sœur Catherine dut s'aliter à cause de la maladie. Même dans sa maladie, elle profitait de ses dernières forces pour faire encore des petits paquets de médailles miraculeuses qu'elle envoyait à ses amis. Et voilà qu'elle s'éteignit paisiblement, silencieusement comme elle avait vécu, le 31 décembre. Son corps fut enterré, puis 56 ans plus tard, on déterra le corps de Catherine, il l'était conservé miraculeusement. Ce fut Pie XII, en 1933, qui la canonisa. Mais depuis la mort de Sainte Catherine,
les miracles se multiplièrent. Incendies qui furent repoussés, enfants malades près de mourir qui furent guéris, pécheresses gravement malades qui allaient mourir, qui refusaient le prêtre, acceptant la médaille miraculeuse, qui demandaient le prêtre pour se confesser et qui mouraient chrétiennes grâce à la médaille. Enfants durant la guerre mondiale qui furent pris subitement par un bombardement et se réfugient dans une maison. La maison fut complètement détruite, sauf le pan de mur au-dessus de leur tête. Les missionnaires dans les missions, qui non seulement convertirent des pécheurs par la médaille, mais guérirent beaucoup de malades qui étaient atteints de maladies mystérieuses. Et depuis ce jour-là, la médaille s'est répandue partout. Même les soldats la portent, même parfois des non-catholiques. La Sainte Vierge est la mère de tous. Elle veut tous nous protéger, nous donner des grâces, mais surtout nous conduire à Jésus. Voilà donc cette belle histoire de Sainte Catherine Labouret et de la médaille miraculeuse. Je pense que vous avez compris quelle grande bonté a la Très Sainte Vierge Marie pour nous. Mais il y a des conditions. La condition, c'est de la prier, c'est de porter sa médaille et de chercher à l'imiter. Mais comment imiter la Sainte Vierge? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est bien simple. Il suffit de dire le chapelet. Avant chaque dizaine de chapelets, on se rappelle comment a vécu la Sainte Vierge. Son humilité, sa charité, sa pauvreté, ce qu'on appelle le fruit du mystère. Et en priant ensuite, « Je vous salue Marie, je vous salue Marie », la Sainte Vierge nous communique cette imitation, ses vertus. Et ensuite, dans les dangers, dans les tentations, au moment de la mort, Marie, dont la médaille est l'image de sa présence, nous défendra contre les attaques et contre les traits du démon. Oui, aimez, 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 priez, imitez la Sainte Vierge, et soyez de petits messagers de Marie, faites-la aimer, faites-la prier, faites-la connaître, et ainsi Notre-Dame pourra sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. Et empêcher que Dieu soit offensé, car il est déjà trop offensé. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et sauvez-nous, et faites que nous soyons un jour tous unis avec vous dans le ciel, à côté de Jésus. Ainsi soit-il.
L'histoire de Notre-Dame de Pontmain. La Très Sainte Vierge Marie est apparue bien souvent sur la terre, et en particulier en France, où on compte des milliers de chapelles et d'églises consacrées à son honneur. C'est grâce surtout au roi Louis XIII qui en 1638 consacra, offrit, donna son royaume à la Très Sainte Vierge Marie. Elle fut reconnaissante. En 1830, la Sainte Vierge venait nous faire, à la rue du Bac, à Paris, dans les mains de Sainte Catherine Labouret, le grand cadeau de la médaille miraculeuse, qui a fait tant de conversions, guérisons et qui nous a donné tant de grâce. 16 ans plus tard, encore en France, à la Salette, la Très Sainte Vierge Marie apparaissait à de petits enfants pour leur demander de prier et de donner un message pour le pape et pour l'Église. En 1858, c'est à Lourdes, encore auprès d'une jeune enfant, Sainte Bernadette, que la Sainte Vierge apparaît, tenant le chapelet dans ses mains, pour demander de faire pénitence de nos péchés, et nous donnant cette source de l'eau miraculeuse de Lourdes. À Pontmain, ce fut en 1871 que la Sainte Vierge apparut. Pontmain, c'est un petit village du nord-ouest de la France, pas très loin du mont Saint-Michel, où Saint-Michel-Archange est venu bien des siècles auparavant. C'était un petit village de 500 habitants, qui n'avait pas de curé, qui n'avait pas d'église. On disait la messe dans une grange, et monsieur le curé Guérin fut le premier curé de Pontmain. Quand il arriva, il fut un peu déçu de voir qu'il n'y avait même pas d'église, alors il en fit construire une. Et dès son arrivée, il donna à ses paroissiens un grand amour pour la Sainte Vierge. Il fit mettre sur le sommet du clocher de l'église une statue de Marie, et dans chaque foyer, il voulut que la Sainte Vierge eût la place d'honneur pour qu'elle veille sur le foyer et qu'on la prie chaque jour. Dans la paroisse, il fit deux congrégations, une pour les grands, la confrérie du cœur immaculé de Marie, et une pour les petits, les enfants de Marie. Et il voulait que les enfants viennent au pied de la Sainte Vierge lui offrir honneur et prière deux fois par jour. Vous voyez qu'à côté d'eux, on n'en fait peut-être pas beaucoup. Et tous les dimanches, l'après-midi, après la messe du matin, M. Curé rassemblait encore ses paroissiens pour prier le chapelet solennellement devant l'autel de Marie. Il fit venir aussi des religieuses qui fondèrent une école pour s'occuper non pas seulement des études, mais de l'éducation et de la bonne manière des enfants. Vous savez que la politesse, ça fait partie de la charité. La vie dans le village était très paisible. Les gens étaient pour la plupart des paysans qui avaient du bétail, mais une famille devint célèbre, c'est la famille Barbedette. Le père était un père exemplaire. Tous les matins, il se rendait de bonne heure à l'église pour deux choses. D'abord pour offrir sa journée, ce que l'on fait tous. Divin cœur de Jésus, je vous offre par le cœur immaculé de Marie, etc. Et ensuite, il confiait sa famille à la Sainte Vierge. Sa famille, eh bien, en était protégée, puisque la mère était une mère modèle dans son éducation, dans sa piété, et surtout, ce qui est le plus important dans l'éducation, dans l'exemple qu'elle donnait à ses enfants. Joseph, un des enfants, dira un jour, « Jamais je ne remercierai jamais assez le bon Dieu de m'avoir donné un tel père et une telle mère. » Eugène aura 13 ans lors de l'apparition. Il était travailleur, sérieux, pieux, et le plus petit, Joseph, lui était plutôt joyeux, espiègle, mais très franc. Les enfants Barbedette ne disaient jamais un mensonge. Bel exemple pour nous. Furent des années terribles. En effet, Napoléon III, qui faisait la guerre contre la Prusse, était en train de perdre la guerre. Et les Prussiens avançaient en France, détruisant presque tout sur leur passage. Et ils s'approchaient insensiblement mais sûrement de Pontmain. Qui pourrait retenir ce fléau de Dieu? Car vous savez que les guerres sont des permissions que Dieu donne pour nous punir de nos péchés. Qui peut obtenir miséricorde pour les pécheurs? Qui est le refuge des pécheurs? En 1871, 23 septembre, presque tous les hommes de Pontmain durent partir à la guerre. Monsieur le curé les confessa chacun, les communia, les bénit, les consacra à la Sainte Vierge et leur dit « Tous vous reviendrez. Marie prend soin de vous. » Pourtant l'angoisse, la peur était bien grande chez les paroissiens. Alors monsieur le curé organisa des prières. Il demanda à ses paroissiens de venir à la messe tous les jours, de prier le chapelet tous les jours. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que tout le monde obéit, et de bon cœur. On pouvait voir les enfants, les parents, les personnes âgées, tous se regrouper le matin et remplir l'église de leurs prières ferventes et confiantes à Notre-Dame, reine d'espérance. Les petits-enfants, Barbedette, tous les matins récitaient leur chapelet avant de manger. Puis chaque jour, l'après-midi, se rendait à l'église pour faire le chemin de la croix. Dieu ne se laisserait-il pas toucher par tant de prières? Ce 17 janvier 1871, en fin d'après-midi, c'était l'hiver, il faisait nuit. Et le papa et ses enfants, Barbedette, étaient en train de piler les ajoncs pour donner à manger aux animaux. On travaille depuis quelque temps déjà, quand une dame arriva pour donner de bonnes nouvelles des parents des pères de famille qui étaient partis à la guerre. Eugène sortit pour voir un peu le temps qu'il faisait, et il put voir une belle nuit étoilée, d'hiver, froide, mais merveilleuse. Pourtant, un coin du ciel était sans étoiles. Il regarde plus attentivement, il s'avance un peu, et voilà que tout à coup, une belle dame, entourée de lumière et de trois étoiles, apparaît au-dessus du village. Elle portait une robe bleu foncé parsemée d'étoiles. Elle portait une couronne d'or et elle lui souriait. « Maman, maman, viens voir, il y a une belle dame au-dessus du village !» La maman sort en vitesse, elle regarde. « Où ça ?»« Mais là, au-dessus de la maison, celle-là, tu vois pas, la belle dame qui nous sourit ?»« Je vois rien du tout. » Arrêtez sonnette maintenant, viens travailler. Mais je te dis qu'il y a une belle dame. Joseph, viens voir la belle dame. Joseph sort et aussitôt dehors, oh la belle dame avec une couronne d'or qui nous sourit, une belle robe bleue. La Sainte Vierge les regardait avec tendresse. Comme une mère, dira-t-on plus tard, elle semblait plus heureuse de nous voir que nous l'étions de la regarder. Mais comme le papa ne voyait rien du tout, il dit à ses enfants, maintenant ça suffit, vous venez dedans travailler. Il n'y a rien du tout, venez travailler. Les enfants durent obéir. Ils retournèrent dans la grange, piler les ajoncs. Le travail fini, il fallait rentrer à la maison, on sort, la belle dame était toujours là. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau! Mais arrête de crier, tu vas avertir tout le village et tout le monde va se moquer de nous, dit la maman un peu énervée. Mais je vois quelqu'un! C'est peut-être la Sainte Vierge. Arrête de jouer à des idioties maintenant. Finalement, le père, un peu troublé, se dit, si c'est la Sainte Vierge, ça lui ferait de la peine si on ne la croyait pas. Alors on se mit à genoux dans la grange, à l'abri du froid, et on commença le chapelet. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Le chapelet terminé, la maman voulut avoir le cœur net. Elle alla chercher ses lunettes pour voir si ce n'était pas un problème de vue. Elle sort, mais elle ne voit rien. Il n'y a rien du tout, puisque même avec mes lunettes, je ne vois rien. Alors maintenant, vous rentrez travailler. Et on se remit au travail. On partit souper et les enfants marchaient à reculant pour pouvoir contempler celle que les parents ne voyaient pas. Mystère. À la maison, les enfants mangent à toute vitesse. Papa, est-ce qu'on peut retourner à la grange? Oui, quand vous aurez rangé vos affaires. Ah, merci papa, mais vous ne mettez pas à genoux par terre, il fait trop froid. Oui papa. Et ils partent en courant. Mais aussitôt arrivés près du lieu d'apparition,
Impossible de penser aux ordres de papa, ils se mettent à genoux dans la neige. Ils récitent encore leur chapelet. Ils reviennent tout heureux à la maison, mais la maman était un peu intriguée. Elle se rend à l'école, chez les sœurs, chez sœur Vitaline, et lui dit « Ma sœur, mes enfants disent qu'ils voient une belle dame au-dessus d'une maison. Vous êtes une sœur, une religieuse, donc si vous ne la voyez pas, c'est qu'il n'y a rien du tout. Est-ce que vous pouvez venir voir ?»«
Mais bien sûr, madame, je viens. » On sort, on se rend sur le lieu d'apparition, mais la sœur ne voyait rien, sauf les trois grandes étoiles qui entouraient cette personne, invisible pour elle.
Ah, vous voyez, la sœur, elle ne voit rien du tout. Donc c'est qu'il n'y a rien, parce que la sœur, elle est plus gentille que vous. Alors vous retournez à la maison maintenant.
Et on retourne à la maison. Mais la sœur était intriguée. Elle retourne à l'école et sans rien dire aux enfants, leur dit, voulez-vous venir avec moi? Je veux vous montrer quelque chose.
Quelque chose? Quoi?
Vous verrez. On sort, on se rend devant la grange, et sans que la sœur n'ait rien dit,
« Oh, ma sœur, regardez la belle dame au-dessus de la maison. Une dame avec une robe bleue et des étoiles sur sa robe. Elle nous sourit. »
Cette fois, c'était bien sûr. Exactement comme les garçons l'avaient annoncé. Cette fois, le papa était vraiment humblement humilié de s'être trompé.
Alors on alla chercher M. le curé.
« Ce curé, dit la sœur Vitaline,
la Sainte Vierge nous apparaît. »«
La Sainte Vierge? À nous? Ah non, c'est pas possible. Pas ici, on n'est pas digne. Vous êtes sûr? Vous me faites peur, ma sœur. »«
Mais oui, monsieur le curé, venez vite.
Oh, »« J'arrive. » Et on se met vite en route, en s'assurant qu'on a le chapelet dans sa poche. Et quand on arrive sur place, il y avait déjà bien des gens du village qui étaient là. Tous les enfants pouvaient la voir, même les petits bébés. Mais aucune grande personne ne pouvait voir la Sainte Vierge.
Vous voyez que la Sainte Vierge a un amour particulier pour les enfants. Et cet amour particulier pour les enfants, elle aimerait bien le recevoir en retour de vous, les enfants. Alors la Sainte Vierge étendit les mains. Une grande croix rouge apparut sur son cœur, puis un ovale autour d'elle, avec quatre bougies, entourées à l'apparition.
Alors un monsieur voulut rigoler et se moquer de cela en disant « Oh, moi je vais regarder à travers mon voile de soie et je suis sûr que je vais l'apercevoir. »
Il regarde, il voit rien.
« Je vois rien, donc c'est qu'il n'y a rien. »
Et tout le monde de rire avec lui. Mais là, la Sainte Vierge devient triste. Et M. Curé, voyant la tristesse sur le visage des enfants, leur dit « Arrêtez de vous moquer. Mettons-nous à genoux, récitons le chapelet. » Et aussitôt qu'ils récitèrent le chapelet, la dame s'est mise à grandir, et de nombreuses étoiles s'ajoutèrent sous les étoiles qui étaient déjà autour d'elle et sur sa robe. Ne serait-ce pas le symbole de la grande puissance de la Sainte Vierge et de toutes les grâces brillantes qu'elle veut nous donner quand nous la prions? Rappelez-vous qu'à la rue du Bac, elle disait « Beaucoup de grâces, je ne peux pas les donner » parce qu'on ne les demande pas. Et voilà pourquoi la Sainte Vierge grandissait à mesure qu'on priait. Et M. le curé continua la veillée de prière en disant « On restera là jusqu'à ce que les enfants ne la voient plus. » Et on se mit à chanter des cantiques. Et dès que les cantiques commencèrent, une banderole apparut sous les pieds de la Sainte Vierge. Et puis une main invisible se mit à écrire en lettres d'or « Mais priez mes enfants. » Et aussitôt, un monsieur arriva en courant.
« Il faut prier, les Prussiens, ils y sont à Laval, ils sont tout prêts, ils vont arriver bientôt ici. »
Mais les gens, les enfants surtout, le rassurèrent en disant « On va prier, puisque la Sainte Vierge nous apparaît. » La main invisible continue d'écrire « Mais priez mes enfants. » Dieu vous exaucera en peu de temps.
Ça y est, c'est sûr cette fois. Faites chanter les litanies de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge va nous préserver de la guerre. Elle a écrit que Dieu nous exaucera en peu de temps.
Alors, vraiment, tout le monde était joyeux. Surtout M. le curé de voir que toutes les prières qu'il avait fait faire dans sa paroisse avaient été exaucées. Et sur le lieu même où elles avaient été faites.
Des personnes pourtant étaient bien incrédules. Une dame rentrait chez elle en secouant les épaules, en se disant « jamais je croirai à ces apparitions ». Et aussitôt, elle fut mystérieusement attirée au sol et obligée de se mettre à genoux. Alors elle demanda pardon à Dieu et comprit que cette apparition était du ciel. Toutes les familles du village étaient là maintenant. Les parents l'envoyaient, les grands n'envoyaient pas, même pas monsieur le curé. On chantait, on priait, et alors, sur le cadre, apparut cette phrase « Mon fils se laisse toucher. Mon fils se laisse toucher dans son cœur par vos prières. » Là, la Sainte Vierge éleva les mains, et toute joyeuse, elle semblait être heureuse de pouvoir donner grâce, protection, sainteté, salut, parce qu'on l'a prié. Ensuite, monsieur le curé entonna un chant pour demander pardon à Jésus pour nos péchés. Là, la Sainte Vierge prit un air très triste. Puis elle prit un crucifix dans la main, avec un beau Christ, et Jésus-Christ marqué au-dessus de la croix. Alors elle semblait vraiment très attristée, très affligée de tous les péchés qui se commettent dans le monde, puisque ces péchés ont fait souffrir et mourir Jésus. Quelle ingratitude! Nous savons que Jésus a dû souffrir et mourir à cause du péché, et nous péchons quand même. Ah, demandons pardon, réparons envers Jésus-Christ et consolons la très sainte Vierge Marie. La plus grande joie qu'on puisse donner à la Sainte Vierge, plus grande encore que la prier, que l'imiter, c'est de ne plus offenser son Fils Jésus. Voilà les sacrifices qu'elle réclame. Voilà les meilleurs sacrifices. Éviter un péché, éviter un mensonge, éviter une désobéissance, éviter de se venger, éviter d'oublier ses prières, etc., etc. Puis la Sainte Vierge apparut avec deux croix sur chacune de ses épaules, comme pour nous faire comprendre qu'elle nous aidera à porter la croix. Puis monsieur le curé fit faire la prière du soir aux enfants, et à mesure que la prière du soir avançait, la très sainte Vierge Marie disparaissait tout en souriant. « Vous la voyez encore ?» dit monsieur le curé. « Non, elle n'est plus là. Alors nous allons rentrer chez nous. » On se mit au lit, mais on ne put pas pouvoir dormir beaucoup ce soir-là. Tout heureux d'avoir eu ce signe et ce message de la Sainte Vierge. Monsieur le curé rentrait content. Il pouvait être satisfait de voir que sa paroisse avait été très fervente et obtenu, sans doute, ça allait certainement arriver, la fin de la guerre. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au même moment, le 17 janvier, à Saint-Brieuc, on faisait des vœux en l'honneur de Notre-Dame de l'Espérance. Des gens d'un peu partout promettaient à la Sainte Vierge un pèlerinage, un sacrifice. Notre-Dame des Victoires à Paris aussi, on fit le vœu de lui offrir un cœur en argent. Un peu partout, on lui faisait des prières, des promesses, des vœux. On promit aussi à Laval de restaurer la basilique, de faire un beau clocher. Les Prussiens étaient à quelques mètres de la basilique. Laval était sans défense. Le 17 janvier, les Prussiens reçoivent l'ordre d'envahir Laval et d'avancer. Ils s'apprêtent à partir, mais sans qu'on sût pourquoi, humainement, le prince Frédéric Charles donna l'ordre de ne pas attaquer et de retourner en arrière. C'était la fin de la guerre. Jésus s'était laissé toucher par les prières de tant d'enfants, surtout envers sa très sainte mère. Les Prussiens repartirent chez eux, et le 28 janvier, quelques jours plus tard, la paix était signée. Alors on vint de partout, de toute la France, pour remercier la très sainte Vierge Marie. C'est souvent ce qu'on oublie de faire, quand on a reçu une grâce, de dire merci. Dire merci, c'est recevoir d'autres grâces. Et les enfants furent très reconnaissants. Ils n'arrêtèrent pas leurs prières parce que la guerre avait fini, mais au contraire, ils priaient, ils faisaient prier,
et raconter leur histoire pour que la Sainte Vierge soit encore plus aimée et plus honorée. Des soldats cherchèrent même à les intimider. Ils leur menacèrent de les faire mourir s'ils disaient encore qu'ils avaient vu la Sainte Vierge, mais les enfants ne voulurent pas dire un mensonge en disant qu'ils ne l'avaient pas vue. Ils auraient préféré mourir que de dire ce mensonge. D'ailleurs, ils furent protégés et le soldat repartit. On voulut voir si vraiment les petits-enfants l'avaient vu. Augustine Boitin, qui n'avait que 25 mois le jour de l'apparition, on la ramena devant la grange en la faisant regarder d'un autre côté. Mais toujours, elle se retournait vers l'endroit des apparitions. Alors on lui disait, « Il y a Jésus qui est là, il y a la Sainte Vierge. » Mais le petit bébé répondait, « Il n'y a plus, il est parti. » L'enquête canonique commença avec plusieurs évêques, monsieur le curé qui dut témoigner, les enfants qui durent promettre de dire la vérité, et finalement, l'évêque du lieu, l'évêque de Laval, dit « Je crois ». Il reconnut les apparitions. Alors les pèlerinages devinrent très nombreux. On venait de partout, même de plus loin que la France, pour remercier la Sainte Vierge. « Rien de plus édifiant, dira monsieur le curé. C'est une fête continuelle. Tous les jours, on voit courir des familles, des paroisses entières même, pour honorer Marie, depuis 5 heures du matin. Tout le monde prie avec une ferveur que l'on ne peut pas décrire tellement elle est belle. Tous les militaires étaient rentrés. Le curé l'avait promis, sauf un. Était-il mort à la guerre? Mais non. La Sainte Vierge, à laquelle il avait été consacré, le ramena le 17 juin 1871. Mais cette histoire n'est pas finie ainsi. Maintenant, ce sont les miracles qui vont se multiplier. Le premier fut la guérison d'un petit garçon de 10 ans, appelé Émile, qui ne pouvait plus marcher depuis bien longtemps déjà. Il vint à Pontmain, il pria, jusqu'à ce qu'il fût guéri. Et il déposa les béquilles auprès de la statue de Notre-Dame de Pontmain. Un autre miracle, très retentissant aussi, fut la guérison de sœur Léonie, qui était une sœur muette. Elle vint à Pontmain avec sa communauté, qui priait, qui chantait devant la statue de la Sainte Vierge, et tout à coup, ce fut la sœur qui se mit à chanter elle-même d'une voix cristalline. Les autres sœurs étaient stupéfaites de ce miracle merveilleux. Non seulement elle avait été guérie, non seulement d'un seul coup, mais sa voix était vraiment la voix d'un ange. Monsieur curé recevait des centaines et des milliers de lettres pour lui raconter les grâces, guérisons, mais conversions surtout, qu'il avait été obtenue par Notre-Dame de Pontmain. Car c'est surtout cette grâce qu'elle donne de sanctifier, de convertir, de nous rendre meilleurs. Depuis ce jour-là, des milliers de personnes venaient prier à Pontmain, parfois 8000 personnes par jour. L'Église, dans la personne des évêques et des prêtres, examinèrent la loyauté des voyants, et ce fut le 2 février 1872 que l'Église reconnaissait l'authenticité des apparitions et autorisait la construction d'un sanctuaire, d'une basilique. Pour cela, on se rendit sur les lieux mêmes de l'apparition. Il y avait un champ et on demanda au propriétaire s'il voulait bien vendre le champ à un certain monsieur Morin. Mais celui-ci leur dit « Non, non, je ne vous vends pas le champ. Puisque la Sainte Vierge est venue, le champ lui appartient. Je ne vous le vends pas, je vous le donne. » Et là, on construit cette immense basilique, très belle, magnifique, avec un intérieur de beaux vitraux qui retracent les principales apparitions à la Sainte Vierge, et aussi 10 petites chapelles intérieures, dont un des autels, en marbre, a été payé par les enfants de la croisade eucharistique. Il y a aussi un beau carillon avec 32 cloches qui permet de faire de beaux carillons les jours de fête.
Les guérisons se multipliaient avec les pèlerinages, notamment la guérison d'Eugénie Piaget, qui avait 13 ans, venait pour la sixième fois à Pontmain. Là encore, elle fut guérie de ses souffrances, grâce à la foi et à la prière de ses parents aussi. De même, la guérison d'un garçon, Eugène de Rennes, qui était muet, lui aussi vint à Pontmain, pria longtemps, sa foi étant solide, jusqu'à ce qu'il ait obtenu la guérison de la très sainte Vierge Marie. Mais la plus grande grâce que la Sainte Vierge donne à Pontmain, comme dans le monde entier, c'est la grâce du salut, la grâce de la conversion pour les pauvres pécheurs. Ici à Pontmain, Michel Leblanc, un fameux pécheur, qui s'était, comme il disait, brouillé avec la religion depuis qu'il était tombé malade, fut converti par elle. Il s'était rendu chez le médecin pour lui demander combien lui coûterait le traitement pour la peut-être guérison, mais comme c'était un peu cher pour lui, il se dit « je vais aller à Pontmain, je vais assister à la messe, c'est gratuit, et elle me guérira ». Il se rend là-bas, et le 8 septembre, jour de la naissance de la très sainte Vierge Marie, il se sent irrésistiblement attiré à se confesser. Il confesse tous les péchés de sa vie, fait une bonne communion, et il fut complètement guéri, dans son âme et dans son corps. Un autre pécheur était un vieux Mont-Blanc, mendiant, grincheux, qui insultait tout le monde, qui blasphémait. Il passait son temps à vagabonder, à paresser, à boire. Et lui aussi, un jour qu'il passait par Pontmain, par hasard, plutôt par providence, comme il faudrait dire, il se sentit attiré à entrer dans l'église. Là, il se sentit attiré à prier devant la Sainte Vierge, qui le conduisait au confessionnal. Il se réconcilia avec Dieu et il devint un bon chrétien. Ces exemples sont quelques-uns parmi beaucoup, car la Sainte Vierge n'a qu'un désir, c'est guérir notre âme de ses défauts. Qu'est-ce que sont devenus les petits voyants de Pontmain, tous ces enfants? Le premier des voyants, Eugène Barbedette, devint prêtre, vicaire, puis curé, et il mourut saintement, curé de Châtillon-sur-Colmont, le 2 mai 1927. Son frère, Joseph, lui aussi devint prêtre. Il écrit un petit livre, Le récit d'un voyant, qui raconte l'histoire de Pontmain. Il mourut en 1930. Une troisième, Françoise Richer, passa sa vie à servir les autres, notamment le curé Eugène Barbedette. Elle mourut en 1915. Une quatrième, Jeanne, devient Jeanne-Marie religieuse et elle mourut saintement en 1923. Un autre, Auguste, devient lui frère chez les jésuites. Il mourut, après bien des années de mission en Chine, en 1945. Vous êtes peut-être étonné que tous ces enfants soient devenus prêtres, religieuses ou frères, mais cela est bien normal. Quand le ciel nous a été donné, on ne peut que se donner pour le ciel. Eugène Fritaud, lui, mourut le 4 mai 1871, quelques mois après les apparitions. Il était très malade, mais dans sa maladie, il ne pensait qu'à rendre service et à offrir ses prières, ses sacrifices pour la conversion des pécheurs. Ce que nous faisons tous, n'est-ce pas? Surtout vous, enfants, qui faites partie de la croisade eucharistique. Une dernière, enfin, Augustine Boitin, vous rappelez, c'est cet enfant de 25 mois qui disait à ses parents, « il n'y a plus, est parti ». Eh bien, après bien des vicissitudes dans sa vie, après avoir abandonné la pratique religieuse, la Sainte Vierge la ramena à la foi
à la fin de sa vie, elle fit une sainte mort le 8 mai, jour de Notre-Dame médiatrice de toute grâce, 1942. Et monsieur le curé, le saint curé de Pontmain, lui est mort une année après les apparitions, bien heureux d'avoir pu voir l'expansion de la dévotion à la Sainte Vierge en France et dans le monde entier, grâce aux prières de ses paroissiens, comme il le disait en toute humilité, mais aussi grâce au ciel. Voilà pourquoi ce petit village de Pontmain, petit hameau de rien du tout, est devenu célèbre dans le monde entier. Tout le monde connaît cette apparition de la Sainte Vierge. Tout le monde connaît son message, son amour privilégié pour les enfants. Si vous avez l'occasion de vous rendre dans le nord de la France, passez à Pontmain, puisque la Sainte Vierge demandera à son Fils les grâces dont nous avons besoin. Voilà cette belle histoire de Notre-Dame de Pontmain. La très sainte Vierge Marie, après être apparue à Paris, à la rue du Bac, à la Salette, à Lourdes, à Pontmain, puis dans ces derniers temps à Fatima et à d'autres endroits encore, nous rappelle qu'elle est notre bonne maman du ciel, qu'elle n'a qu'un désir, c'est de nous aider à porter la croix. Si parfois elle ne nous guérit pas, elle nous aide à porter la croix par amour pour Jésus, pour réparer les péchés qui se commettent dans le monde, pour convertir les pécheurs qui se damneraient s'il n'y avait pas nos prières et nos sacrifices pour eux. Elle nous rappelle aussi que Dieu se laisse toucher par nos prières. Il faut prier avec humilité, laissant le bon Dieu choisir ce qu'il veut. Il faut prier avec confiance, sachant que tout ce qu'on demandera, si on le croit l'obtenir, on l'obtiendra. Qu'il faut prier avec persévérance, jusqu'à ce que Dieu nous donne, si c'est pour le bien de notre âme. Il faut parfois demander longtemps, quand Dieu veut donner de grandes grâces. Et puis qu'il faut prier par Marie, médiatrice de toute grâce, qui prend nos prières, les unit aux siennes, et ainsi notre demande est embellie par les demandes même de la Sainte Vierge. Oh mes bien chers amis, mes bien chers enfants, aimez beaucoup la très Sainte Vierge Marie. Celui qui aime la Sainte Vierge, celui qui se fait son serviteur, est sûr de son salut. Rappelez-vous ce que nous a dit la Sainte Vierge à Fatima. À celui qui embrasse la dévotion à mon cœur immaculé, je promets le salut. Ses âmes seront comme des fleurs placées par moi au pied du trône de Dieu. Alors reprenons la résolution de prier la Sainte Vierge tous les matins, tous les soirs, dans les tentations, dans les difficultés, dans les épreuves. Prenons la résolution de tout lui offrir et surtout d'aimer le chapelet, sa prière préférée et si merveilleusement récompensée. Cette prière qui est composée des prières les plus divines après le saint sacrifice de la messe. Toutes les prières du chapelet viennent du ciel. Et le chapelet nous rappelle notre idéal. À chaque dizaine, nous nous rappelons un mystère de la vie de Jésus et de Marie, une vertu qu'ils ont pratiquée. Et étant nos modèles, eh bien nous sommes, par la force de la prière, poussés à les imiter. Oui, faites-vous aussi les apôtres de la Sainte Vierge. Faites-la connaître, aimer, prier, et vous en serez récompensés dans l'éternité, mais déjà ici-bas. Car le démon a plus de mal de vaincre les serviteurs de Marie que les autres. Oui, si j'aime Marie, je suis sûr de mon salut, et j'obtiendrai tout ce que je lui demanderai. Nous disent les saints.